Sylvain Maréchal, projet de loi portant interdiction d'apprendre à lire aux femmes, texte de la loi. En conséquence, 1. La raison veut, dût-elle passer pour vandale, que les femmes, filles, mariées ou veuves, ne mettent jamais le nez dans un livre, jamais la main à la plume. 2. La raison veut à l'homme l'épée et la plume, à la femme l'aiguille et le fuseau, à l'homme la massue d'Hercule, à la femme la quenouille d'Omphale, à l'homme les productions du génie, à la femme les sentiments du cœur. 3. La raison veut que chaque sexe soit à sa place et s'y tienne. Les choses vont mal quand les deux sexes empiètent l'un sur l'autre. La lune et le soleil ne luisent point ensemble. S. 4. La raison ne veut pas plus que la langue française qu'une femme soit auteur. Ce titre, sous toutes ses acceptions, est le propre de l'homme seul. 5. La raison veut que les sexes diffèrent de talent comme d'habit. Il est aussi révoltant et scandaleux de voir un homme coudre que de voir une femme écrire, de voir un homme tresser des cheveux que de voir une femme tourner des phrases. 6. La raison maintient ce vieux proverbe. Les paroles sont des femelles, les écrits sont des mâles. En ce qu'il semble faire les parts et assigner à chacun des deux sexes le talent qui lui convient. Nota bene, toute la sagesse des nations est dans leurs proverbes. 7. La raison veut que l'on dispense les femmes d'apprendre à lire, à écrire, à imprimer, à graver, à scander, à solfier, à peindre, etc. Quand elles savent un peu de tout cela, c'est trop ordinairement aux dépens de la science du ménage. 8. La raison veut donc que la plume à écrire et le pinceau, le crayon et le burin soient interdits à la main des femmes, l'aiguille à coudre et le fuseau à la main des hommes. 9. La raison veut que, dans les arts du dessin, de la peinture et de la gravure, les femmes ne perdent pas le temps à porter leurs prétentions au-delà de celles de la sensible Dibutade. Cette jeune beauté de Sicyone traça sur la muraille, à la lueur d'une lampe, le pourtour de l'ombre de son jeune ami, obligé de faire un long voyage. Voir l'histoire naturelle de Pline, 35-12. 10. La raison veut, et la décence n'approuve point du tout, que de jeunes dessinatrices passent des journées entières à contempler et à copier les belles proportions de l'Apollon du Louvre ou du Lantin ou de l'Hercule Farnèse, etc. Périssent tous les arts plutôt que la pudeur. 11. La raison veut que les femmes, dans leurs loisirs, apprennent naturellement à chanter sans livre et sans maître, mais qu'elles ignorent toute leur vie combien il y a de notes dans la musique, de lettres dans l'alphabet, de syllabes dans un vers alexandrin ou pentamètre. Les femmes sont nées pour être aimables et vertueuses, et non pour devenir des virtuoses et des savantes. 12. La raison veut que les maris soient les seuls livres de leurs femmes, livres vivants où nuit et jour, elles doivent apprendre à lire leur destinée. Il serait bien séant et honorable, dit un vieux livre, d'ouïr une femme qui dirait à son mari « Mon ami, tu es mon précepteur, mon maître de philosophie, etc. » Institution de l'homme, 1626, page 441. Nota bene. une femme bel esprit et auteur de 5 à 6 gros livres, vint rendre visite à une mère de 3 filles et de 3 garçons. « Voici, dit la mère de famille, en présentant ses enfants et leur père à la dame auteur, voici mes productions et ma bibliothèque. » 13. La raison veut que les femmes sachent leur langue maternelle seulement. « C'est une vanité aux femmes, a dit quelqu'un, de parler une langue étrangère. » Lettre à une demoiselle, page 149, 1737. 14. La raison veut que l'on fasse grâce aux femmes de l'étude aride et sèche de la grammaire, les femmes étant destinées à des occupations plus agréables et moins stériles. 15. La raison veut aussi que l'on dispense les femmes des éléments non moins ingrats de la géographie et de l'histoire. Leur mémoire fragile porte mal le fardeau des dates et d'une lourde nomenclature. Quel inconvénient d'ailleurs à ce que les femmes fassent des anachronismes. 16. La raison veut que les femmes n'apprennent point à lire aux astres qu'elles comptent les œufs de la basse-cour et non les étoiles du firmament. 17. La raison veut que l'on interdise aux femmes la botanique par principe, qu'elles se bornent à la connaissance des plantes potagères et de quelques simples. 18. La raison n'approuve pas les femmes qui assistent aux leçons de la chimie. Les cuisinières qui ne savent pas lire sont celles qui font la meilleure soupe. Nota bene. Le législateur des femmes espère qu'on lui pardonnera ces menus détails. L'utile avant tout. Rien n'est vil dans l'intérieur du domestique pour une femme sage, dit un poète de la Chine. 19. La raison souffre de voir les femmes grossir le troupeau des gens de lettres. Elles ont assez déjà des infirmités attachées à leur sexe sans s'exposer encore à celle de cette profession. 20. La raison veut que le médecin d'une femme de lettres lui ordonne avant tout de poser la plume et de renoncer au livre à tout jamais. La nièce de Descartes mourut de la pierre causée par son obstination à l'étude. Or, le plus beau livre ne vaut pas une femme saine de corps et d'âme. 21. La raison veut que l'on dise toujours les 3 grâces, mais que l'on ne dise plus les 9 muses, mythologie injurieuse au sexe, puisqu'elle tente à faire croire que sur 12 femmes, on en compte 9 de pédantes, sur 3 seulement d'aimables. Le goût des lettres chez les femmes, dit Thomas, a été regardé comme une sorte de pédantisme. Et c'est sur les femmes. 22. La raison déclare qu'une mère de famille n'a pas besoin de savoir lire pour bien élever ses filles. 23. La raison et la décence veulent qu'une fille reçoive des leçons de sa mère seulement. L'éducation du sexe n'eut d'abord, dans le temps que Rome était vertueuse, pour objet, que l'économie intérieure de la maison et les ouvrages que les mères apprenaient elles-mêmes à leurs filles. Habitude et mœurs privées des Romains, in octavo, page 275 et 276. 24. La raison n'approuve pas ces maisons d'éducation pour les jeunes demoiselles, où on leur apprend tout, excepté la seule chose qu'elles doivent connaître, la science du ménage. La belle éducation donnée à Saint-Cyr aux jeunes filles nobles et pauvres en faisait des femmes pédantes et hautaines. 25. Il n'y aura plus de maîtresse d'école. 26. Les femmes artistes, virtuoses, etc. ne feront plus d'élèves. 27. La raison veut que lorsqu'on s'occupera d'une loi sur l'adoption, on se donne de garde d'en accorder l'usage aux femmes lettrées, virtuoses, etc. 28. La raison veut que toute fille de bonne maison, avant d'obtenir un mari, fasse preuve de talents utiles. 29. La raison veut qu'une jeune vierge, instruite par sa mère aux seules vertus privées, aux seuls détails du ménage, et bien pénétrée de l'amour de ses devoirs et du travail, soit dispensée d'avoir une dot pour avoir un mari. 30. La raison ne conseille à personne de choisir pour épouse et compagne la fille d'une femme lettrée. 31. La raison veut que les épousés ne devant point savoir lire et par conséquent ne pouvant signer leur contrat de mariage, on se contente de leur contentement verbal devant le magistrat et les témoins. Une femme bien née ou bien élevée doit être crue sur sa parole. 32. La raison veut que l'on grave sur le frontispice des salles de mariage l'apophtegme suivant. Demande : quel est l'homme le plus heureux ? Réponse : l'homme le plus heureux, c'est le mari d'une femme sage, sans livre. 33. La raison recommande aux époux ce proverbe chinois : cultiver la vertu et la science des hommes, renoncer à la science et la vertu des femmes. Mémoire sur la Chine, tome 4, in quarto, page 148. 34. La raison veut que la surveille des noces, le meilleur ami ou le plus proche parent d'un épouseur lui répète par 3 fois les paroles suivantes qu'Euripide met dans la bouche du jeune Hippolyte et que le trop galant Racine s'est bien gardé de nous transmettre. Heureux l'époux qui ne voit en sa maison qu'une femme simple, car le comble du malheur, c'est une femme bel esprit. Me préserve les dieux d'une épouse qui sait plus qu'elle ne doit savoir. Acte 3, scène 2, Phèdre et Hippolyte. Nota bene, Phèdre se piquait de bel esprit, voire même de philosophie. Phèdre. 35. La raison veut que, dans le cérémonial du mariage chez les modernes, on imagine quelque incident du genre de celui-ci pratiqué par les anciens. En Béotie, les nouvelles mariées étaient conduites avec pompe à la maison de leur époux, montées sur un char dont on brûlait les cieux à la porte, afin de leur faire entendre qu'elles n'en devaient plus sortir. 36. Dans Rome ancienne, quand une nouvelle mariée posait le pied sur le seuil de la maison maritale, on lui demandait « Que savez-vous ? » Elle ne répondait pas « Je sais lire, je sais écrire, je sais peindre, etc. » Elle disait simplement « Je sais filer. » La raison veut que l'on renouvelle cet ancien usage. Les bons usages ne devraient jamais passer de mode. 37. La raison invite à compulser le greffe des tribunaux civils et criminels. On y verra dans le nombre des épouses divorcées beaucoup plus de femmes de lettres virtuoses, etc., à proportion que d'autres. Est-ce pour éviter ce scandale que les 9 muses gardent le célibat ? 38. La raison veut qu'une femme soit aussi réservée à montrer en public les trésors de son esprit que les charmes secrets de sa beauté. 39. La raison veut que, pour donner l'exemple, les épouses de nos premiers magistrats, sénateurs, tribuns, juges, généraux, etc., au thé, au cercle, aux conversations et autres assemblées oiseuses, substituent chez elles des veillées laborieuses et utiles, où on les verrait avec édification mettre elles-mêmes la main aux vêtements de leurs augustes époux. Andromaque et Pénélope, femmes de 2 héros, ne dédaignait pas de présider à tous les détails domestiques. 40. Les maîtresses de maison pourront coudre un vêtement pour l'offrir à titre de reconnaissance ou de cadeau à l'homme de lettres dont elles auront entendu pendant leur veillée un ouvrage rempli de sentiments vertueux et de talent. La bonne Madame Geoffrin, l'amie de D'Alembert, en agissait ainsi. Elle faisait présent de hautes choses de velours aux auteurs qui l'avaient intéressée par leur lecture. 41. La raison veut que chaque bal soit précédé par quelques heures d'un travail à l'aiguille ou au fuseau. 42. La raison interdit aux femmes les livres d'église. N'ont-elles pas le chapelet et le rosaire? 43. La raison veut que les femmes, absolument étrangères aux misérables disputes des prêtres, s'en tiennent à la religion du cœur et ne confessent leurs fautes qu'aux auteurs de leurs jours ou à leurs maris, seuls juges compétents. 44. La raison invite ceux qui prennent quelque intérêt à la dignité des lettres à dissuader les femmes d'envahir un champ qu'elles n'ont point la force de cultiver comme il veut l'être. La pensée est chose sainte, et le feu sacré du génie s'éteindrait tout à fait s'il était sous la garde même des Vestales. C'est ce qui est arrivé au divin Homère sous la plume de Madame d'Acier. 45. La raison veut que les femmes se contentent d'inspirer les poètes sans chercher à le devenir elles-mêmes. Le cheval Pégase ne se laisse bien monter que par un homme. Une femme poète est une petite monstruosité morale et littéraire, de même qu'une femme souverain est une monstruosité politique. 46. La raison défend aux versificateurs, prosateurs, orateurs, d'enivrer les femmes par un encens perfide qui fait qu'elles se croient nées pour tout autre chose que pour aimer et pour l'être. Les poètes coupables effaceront ces madrigaux avec leur langue, comme ils se pratiquaient jadis à Marseille et à Lyon. Suivant Belle, les femmes sont faciles à gagner par les vers. Dictionnaire. 47. La raison veut que désormais, il soit permis aux courtisanes seulement d'être femmes de lettres, beaux esprits et virtuoses. Les plus fameuses courtisanes de la Grèce l'étaient. Les deux Aspasies, Rhodope, Phryné, Lais, Thaïs, Lamia. Hipparchie était cynique de théorie et de pratique. Cléonis composait des vers avec ses amants. Au premier siècle de l'histoire moderne, on ne tenait pas pour de véritables vierges les filles qui faisaient de grandes conversations et qui montraient leur bel esprit. Fleury. 48. La raison veut que les femmes s'abstiennent non pas seulement de la science des livres, mais encore de la science des cartes à jouer et de l'art de tirer les cartes. Ces deux occupations ruineuses ne supposent ni esprit ni jugement. 49. La raison permettra aux femmes l'usage des livres quand les anges seuls se mêleront d'en composer. Pourquoi, dit une maxime chinoise, ne pas apprendre à lire aux femmes? Parce qu'il y a de mauvais livres. Mémoire sur la Chine, in quarto, tome 4, page 149. 50. La raison veut que les compagnies savantes et les corps littéraires se refusent au plaisir de compter les femmes au nombre de leurs membres. Les matrones de Rome ne hantaient pas les gymnases. La décadence de l'Empire romain date du moment où les femmes se permirent d'assister aux cirques, aux amphithéâtres, etc. Les femmes grecques ne se montraient point aux Jeux olympiques. Les femmes, dit le bon Plutarque, ne doivent jamais sortir dehors. Leur office est bien de garder la maison. Œuvre morale. 51. La raison désapprouve ces listes d'académiciens grossies par des noms de femmes. Le nom d'une femme ne doit être gravé que dans le cœur de son père, de son mari ou de ses enfants. 52. La raison veut qu'en attendant l'entier accomplissement de la présente loi, les femmes s'abstiennent de lire et même d'assister aux séances publiques ou particulières des instituts, académies, cercles ou sociétés littéraires, portiques ou veillées des muses, musées, lycées, prytanées, athénées, etc. Comme aussi de suivre les catéchismes et les cours, de hanter les bibliothèques, etc. Ce n'est pas là leur place. Les femmes ne sont bien que chez elles ou dans une fête de famille. Ces spectacles, dit Thomas en parlant d'une femme estimable, sont ses enfants. Et c'est sur les femmes. 53. La raison veut que les femmes ne soient point admises aux tribunes du corps législatif, ni aux séances du tribunat, ni dans le parquet des tribunaux, ni aux fenêtres des maisons avoisinant les places publiques destinées aux exécutions. Leur présence y serait un contresens. Une femme ne doit et ne peut paraître avec décence et solennité qu'au tribunal de famille ou de paix. 54. La raison veut qu'une femme puisse voter dans une assemblée de famille. La raison désapprouverait fort que les femmes aillent opiner à la tribune d'une assemblée nationale. Le premier des deux sexes, représentant naturel de l'autre, discute et stipule pour les deux ensemble. La voix d'une femme, parmi les législateurs, ferait nécessairement cacophonie. Qu'elles aillent plutôt au marché. 55. La raison veut que, sans avoir égard à la réclamation de Condorcet, qui ne fut pas toujours philosophe dans sa conduite et dans ses écrits, les femmes continuent à renoncer au droit de cité, dont elles ne sauraient remplir les devoirs. Serait-il convenable, ou décent par exemple, que les jeunes filles et les femmes montassent la garde, fissent des patrouilles, etc. On retrouve Condorcet tout entier quand il dit dans la même dissertation « Les femmes sont supérieures aux hommes dans les vertus domestiques. Elles sont meilleures, plus sensibles, moins sujettes aux vices qui tiennent à l'égoïsme, à la dureté du cœur, mais… » Journal de 1789, page 5, in octavo. 56. La raison veut que les femmes tiennent le sceptre de la politesse sans aspirer à celui de la politique. Une femme serait aussi déplacée sur un trône que dans la chair d'un évêque. Que de plaisanteries ne s'est-on pas permise sur la papesse Jeanne? Mais Catherine II en Russie, dira-t-on. Quelle est la femme honnête qui voulut ressembler à cette impératrice immorale? La reine Christine elle-même disait « Mon sentiment est que les femmes ne devraient jamais régner. » Mémoire de sa vie, écrit par elle. 57. La raison veut que les femmes demeurent à l'avenir comme par le passé, étrangères aux embâges de la diplomatie. Ce n'est pas dans les affaires d'État, dit Théophraste, c'est dans sa famille qu'une femme doit montrer son esprit et sa prudence. Caractère. 58. La raison veut que tout citoyen qui aura choisi pour épouse et compagne une femme lettrée ou une virtuose, soit par le fait regardé comme inhabile à remplir une fonction publique de quelque importance. Périclès, gouverné par une femme philosophe, ne gouverna point Athènes avec toute la sagesse qu'on attendait de lui. Son administration fut brillante, mais aux dépens de la liberté publique. Et cependant, Périclès n'avait pas craint d'adresser aux dames d'Athènes le discours suivant traduit mot à mot. « Pour ce qui vous regarde, voici quel est mon avis en peu de paroles. N'aspirez qu'à ces vertus qui sont particulières à votre sexe. Suivez la modestie qui vous est naturelle. et croyez que le plus grand éloge que vous puissiez obtenir, c'est qu'on ne dise rien de vous, ni en bien, ni en mal. 59. La raison qui dispense les femmes d'apprendre à lire et à écrire pour empêcher qu'elles n'éludent de la présente loi en dictant les produits de leur imagination à un copiste complaisant, défend à tout homme d'écrire sous la dictée des femmes, excepté une lettre à leur père ou à leur mari absent. Ainsi, tout ce qui peut intéresser l'économie domestique. 60. La raison veut que tous les bons livres, et ils ne sont pas en si grand nombre, soient lus aux femmes, mais non lus par elles. 61. La raison veut que les chefs de maison, les pères et les maris se fassent un devoir de remplir les fonctions de lecteur auprès des femmes. Est-il un tableau plus touchant que celui de Greuze, représentant un père de famille, lequel, assis à une table, fait lecture de la Bible à ses enfants rangés autour de lui. 62. Chacun des chefs de maison transcrira pour le lire à sa femme et à ses filles, à tout le moins une fois l'an, le premier livre des économiques par Xénophon. C'est un chef-d'œuvre de raison et de sensibilité. 63. La raison veut qu'un chef de maison réponde à sa femme et à ses filles, tenté de lui reprocher le peu d'éducation littéraire qu'il leur donne, par ce passage d'un livre plein de sens, imprimé au commencement du siècle qui vient de finir. De toutes les sciences, celle qui convient le mieux aux femmes et à laquelle elle se devrait principalement appliquer, c'est la science des mœurs. Les autres sciences leur sont fort inutiles. L'expérience leur apprend que si elles veulent s'attirer de l'amour, du respect, de la considération, il ne faut pas pour cela qu'elles soient théologiennes, mathématiciennes, physiciennes, rhétoriciennes, historiennes, etc. Les plus instruites dans ces sciences ne sont pas celles qui plaisent le plus. Page 195-196, La langue, tome 1, 1707. 64. La raison veut que le père, le mari, les frères et les enfants de chaque maison ne portent d'autres vêtements que ce filet est tissé de la main des filles et des sœurs, des épouses et des mères. L'empereur César Auguste portait d'ordinaire des habits faits par sa femme, sa sœur et ses filles. En ce temps-là, on ne voyait point les femmes armées d'une plume et d'une férule composées des romans et des traités de théologie. En ce temps-là, on ne voyait point un père et sa fille joutés l'un contre l'autre à qui fera les plus gros livres de finances et de littérature, de morale et de religion, tandis que la mère, plus sage et mal imitée, fondait des hospices. 65. En Chine, la femme d'un lettré ne peut pas employer des mains étrangères pour les habits de son époux. Il faut qu'elle en tire la matière de ses vers à soie, la mettent en œuvre et les fassent elles-mêmes. Voyez le Li Qi. La raison propose cet exemple aux épouses et compagnes des membres de l'Institut et des autres sociétés littéraires. 66. La raison veut que les femmes qui s'obstineraient à faire des livres ne soient point admises à faire des enfants. Belle ne conseille point aux beaux esprits femelles de s'engager dans les liens du mariage. Selon lui, c'est le sort ordinaire des femmes savantes d'essuyer plusieurs chagrins domestiques. Dictionnaire. Belle aurait pu ajouter « et d'en causer ». 67. les hommes ont consacré une fête à la découverte de l'alphabet et de l'imprimerie. Les hommes et les femmes se réuniront pour célébrer une invention charmante, plus précieuse peut-être encore, et qui certainement est point susceptible des mêmes abus. L'invention de la gaze. 68. La raison veut qu'on réalise cette ancienne loi proposée par le sage Pythagore au peuple de Crotone. Honore la charrue et la quenouille, consacre-leur une fête chaque année. 2578, loi. On conserva pendant quelques... On conserva pendant plusieurs siècles, dans un temple à Rome, la quenouille et le fuseau de Tanaquil chargés de la laine que cette reine avait filée. Elle passait pour la plus habile fileuse de son temps. Les filles romaines qui se mariaient étaient accompagnées pendant le cérémonial d'une personne portant une quenouille garnie. En Chine, l'impératrice célèbre tous les ans la fête du fuseau. Filée vaut mieux qu'ourdir des trames politiques ou des cabales littéraires. 69. La raison veut que dans toutes les assemblées et fêtes publiques, les filles à talent et les femmes de lettres, tant qu'il y en aura, cèdent le pas aux bonnes ménagères et aux mères de famille. 70. La raison veut que le soin de brûler des parfums et de tresser les guirlandes de fleurs et les couronnes dans les fêtes publiques soit réservé aux vierges pures et sans lettres. Les épouses et les mères de famille gardent la maison. 71. La raison veut que les bonnes actions des filles sages, des épouses vertueuses et des mères de famille soient proclamées en leur absence dans les solennités nationales. On portera chez elles les couronnes qui leur auront été décernées. On leur répétera l'hymne chanté en leur honneur et non imprimé. On en confiera la tradition à la mémoire de leurs parents ou de leurs enfants. 72. La raison veut qu'aux fêtes publiques dans toutes les communes, on proclame non les femmes auteurs de beaux livres, mais les mères de beaux enfants. 73. La raison veut qu'on grave sur la tombe des femmes recommandables par la science et la pratique du ménage cette belle et antique épitaphe de la reine Amalassonte, non pas la fille de Théodoric, roi des Goths, mais une autre Amalassonte, beaucoup plus ancienne. Casta vixit. Elle vécut chaste. 74. Les auteurs dramatiques sont invités à consacrer leur talent au but moral de la présente loi. Ils pourront employer tour à tour les armes du sentiment et du ridicule au triomphe de la nature et de l'antiquité, compromises par la mauvaise éducation donnée aux femmes. 75. Les pères et les maris sont responsables de la stricte observance de la présente loi. Ils seront seuls punis des contraventions de leurs filles et de leurs femmes. 76. La présente loi est commise à la garde des pères de famille et chefs de maison. Chaque père de famille et chef de maison se procurera un exemplaire de la dite loi pour être placé à l'endroit le plus apparent du domicile. 77. La raison veut que ce projet, pour devenir loi, obtienne la pluralité des suffrages. En conséquence, un vase à scrutin sera ouvert pour recevoir le oui ou le non des chefs de maison, des pères de famille et des hommes mariés. 78. Aussitôt que ce projet de loi aura obtenu sa sanction par la pluralité des suffrages, chacun des chefs de maison donnera une fête à sa famille pour y proclamer la dite loi dans l'intervalle du repas aux danses. en même temps. Il fera jeter au milieu d'un feu de joie tous les livres et instruments à l'usage de l'éducation factice des femmes. Autour du bûcher, on chantera une ronde composée dans l'esprit des couplets suivants sur l'air chanté, dansé, etc. Faut-il tous ces livres poudreux pour être amante, épouse et mère? La nature en sait plus long qu'eux, avec le cœur on sait tout faire. Chantons, dansons, travaillons bien, aimons-nous, le reste n'est rien. Deux jeunes époux bien portants ont-ils besoin de savoir lire pour être auteurs d'un bel enfant qui commence par leur sourire? Chantons, etc. Le nouveau-né certainement peut se passer de la grammaire. Sans savoir lire au rudiment, il tète et caresse sa mère. Chantons, dansons, etc. Article supplémentaire. 77. En attendant que l'on prenne le même parti à l'égard de beaucoup d'autres livres, tous les ouvrages composés par les femmes ou pour elles seront incessamment réunis en un seul dépôt. 78. Le flambeau de la critique fera de la plupart de ces nombreux volumes un sacrifice expiatoire au bon sens. 79. Cette mesure peut être un peu extrême, a pourtant cela de bon que, par elle, cessera nécessairement la distinction des femmes lettrées et de celles qui ne le sont point, ce qui mettra fin à la petite guerre sourde qui existe entre elles. 80. Pour donner un exemple de l'esprit dans lequel on doit procéder à la réforme des livres, on ne conservera de tous les volumes du Parnasse des Dames que les lignes suivantes. La vie sédentaire des dames romaines, uniquement occupées de l'intérieur de leur maison, le soin compris tout le temps que dura la République de les élever dans l'ignorance, le profond respect même qu'on leur portait et les honneurs presque divins rendus à celles qui avaient vécu retirées, chastes et laborieuses, étaient autant d'obstacles pour les détourner de l'amour des lettres. Les dames romaines n'ambitionnèrent le titre de bel esprit et de philosophe que lorsqu'elles cessèrent de prétendre au nom plus respectable de mère tendre et d'épouse fidèle, etc. Les dames romaines ne commencèrent à cultiver les lettres que dans le temps de leur décadence. Post-scriptum. Les Chinoises sont aussi peu curieuses de littérature et d'histoire que les Européennes, de morale et d'algèbre. Leur domestique est leur univers. Plus elles s'occupent à le bien gouverner, plus elles sont heureuses et estimées. On aimerait presque autant leur voir prendre un sabre qu'un pinceau, c'est-à-dire une plume. Pour leur en ôter l'envie, on ne leur apprendra pas à lire. Mémoire chinois, in quarto, tome 1, page 12. Encore une petite citation. L'étude des langues et des connaissances relevées, loin de rendre une femme utile à sa famille, ne servirait qu'à la distraire et à l'enorgueillir jusqu'au point de négliger le soin des affaires domestiques, de mépriser toute subordination et de maudire la condition de son sexe. Les objets essentiels de l'éducation d'une femme sont la science de tout ce qui inspire la douceur, la modestie, la propreté du corps, etc. Histoire de la vie civile, tome 1, page 17, 1769, Martinelli. Nota bene, on remplirait plusieurs volumes in folio d'autorités graves prouvant la nécessité et l'urgence d'une loi dans l'esprit de celle dont nous publions ici le programme. 10 stiques sur une femme homme de lettres. Dédaigneuse et superbe, elle croit tout savoir. Son mari n'est qu'un sot, trop heureux de la voir. Philippe Desportes. Avis aux femmes. Voulez-vous que la paix dans vos cœurs se conserve, belle, que le travail vous occupe toujours? Souvent, l'aiguille de Minerve repousse les traits des amours. Panard. Au temps où nous vivons, deux têtes exaltées du sexe féminin outrepassant les droits, la S et la G, deux chèvres amaltées, ont singé les docteurs, des peuples et des rois. Par un savant breton, Le Brigue. Extrait de la bibliothèque des amants. À une femme bel esprit. Sur les bancs poudreux de l'école, non, je n'aimerais pas te voir dans les volumes de Bartol, puiser un pénible savoir. Ne vante pas tant la science, Ève sait ce qu'elle a coûté. Il est une aimable ignorance qui sied bien mieux à la beauté. La beauté souvent n'est savante, hélas, qu'aux dépens de son cœur. Qu'une Agnès est intéressante, on préfère à tout sa candeur. De tous les arts, Pallas est mère. Pallas pourtant n'eut pas le prix. Vénus, qui ne savait que plaire, le reçut des mains de Paris. Les neuf sœurs sont encore pucelles malgré leurs sublimes esprits. Moins savantes, nos immortelles auraient pu trouver des maris. Hortense, une longue lunette qui fatiguerait tes beaux yeux, tirait plus mal qu'une navette entre tes doigts industrieux. Ta bouche, notre idolâtrie faite pour le propos badin, deviendrait-elle plus jolie quand tu saurais parler latin? L'aigle altier porte le tonnerre, dans les cieux il a son séjour. La colombe rase la terre et n'est faite que pour l'amour. Sylvain. Le Décalogue ou les 10 commandements aux femmes. 1. Pour ton Dieu, amour tu auras et serviras honnêtement. 2. Amour en vain ne jurera ni par l'hymen pareillement. 3. Foi conjugale gardera à ton époux dévotement. 4. Infidèle point ne sera de fait ni volontairement. 5. Père et mère honorera afin de vivre plaisamment. 6. Trop exigeante ne sera de corps, d'esprit, ni autrement. 7. D'autres sciences n'apprendra que ton ménage seulement. 8. Roman et vers ne fera, ni mentira aucunement. 9. Tes enfants tu allaiteras pour être mère absolument. 10. Vivant ainsi, droit tu iras en paradis, dès ce moment. Sylvain.